impénétrables ses voies. Qui donc a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui l'a devancé par ses dons pour être payé de retour? Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour les siècles, ainsi soit-il. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Je vais vous asseoir. C'est aujourd'hui la fête de la très sainte Trinité. À partir de cette fête, on reprend la récitation de l'Angelus trois fois par jour, matin, midi et soir, à la place du Regina Coeli. À ce propos, rappelons-nous que l'Angelus de midi a été institué pour protéger la chrétienté de l'islam. Nous pourrions réciter tous les jours cet Angelus à cette intention. À 18h, vêpres et salut du Très-Saint-Sacrement. Tous les jours de la semaine, messe à 6h30 et 10h. Lundi 17 juin, début de la neuvaine à l'enfant Jésus de Prague, pour lui demander d'aider et de protéger nos écoles. Nous avons eu une réponse favorable du rectorat à la suite des dernières inspections du foyer Saint-Thomas d'Aquin. Mais continuons à entourer nos écoles d'un bouclier protecteur par nos prières constantes à l'enfant Jésus. Mercredi prochain, 19 juin à 10h, nous chanterons une messe solennelle pour les 10 ans de sacerdoce du Père Angelico. Ce sera la messe votive du Sacré-Cœur. Jeudi prochain, 20 juin, fête du Saint-Sacrement. Messe conventuelle chantée à 10h et messe solennelle à 11h45, chantée par les élèves du foyer. Tout l'office du Saint-Sacrement et la messe ont été composés par saint Thomas d'Aquin. À la sortie de la messe, vous sera distribuée la dernière lettre aux amis du couvent. N'hésitez pas à en prendre plusieurs si vous pensez qu'elle peut faire du bien autour de vous. Pour des raisons d'économie, la lettre n'est pas envoyée par la poste aux fidèles qui fréquentent le couvent. Si elle vous est encore envoyée, n'hésitez pas à nous le signaler. Philippe Chabot et Isabelle Revenaz feront leur première communion à cette messe-là. Merci de les laisser communier en premier. Enfin, dimanche prochain, 23 juin, sera la solennité de la fête Dieu. La messe conventuelle de 9h sera solennelle et à 16h auront lieu les vêpres du Saint-Sacrement qui seront suivies de la procession dans la propriété et les rues avoisinantes. Soyez nombreux en ce jour à venir honorer notre Seigneur dans le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. N'hésitez pas à inviter vos amis et connaissances. Il est possible de pique-niquer dans la propriété. Nous sollicitons, comme chaque année, les bonnes volontés pour apporter des fleurs et surtout des pétales de fleurs et aussi pour aider à décorer les reposoirs et à réaliser les parterres décoratifs devant les reposoirs. Merci de vous adresser au Père Angelico à la sortie de la messe. Merci aussi de prier pour le beau temps dimanche prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On raconte dans l'histoire de Sainte Cécile, vierge et martyre du IIIe siècle, le trait suivant. Lorsque, 6 siècles après, son corps fut retrouvé dans un état de conservation parfaite, dont la position même qu'elle avait prise au moment qu'elle expira, on constata qu'elle avait 3 doigts de sa main droite étendus et 1 seul de la main gauche. Que voulait-elle nous dire par cela, par ce geste? Rien d'autre que sa foi au mystère d'un seul Dieu, en 3 personnes. Ce mystère de la très sainte Trinité est une vérité indispensable à croire si nous voulons nous sauver. Et pourtant, elle est pour nous, pour notre raison laissée à ses seules forces, absolument inaccessible. Nous pouvons tout de même essayer de nous en approcher un peu par la foi, en nous appuyant sur ce que notre Seigneur lui-même nous a révélé par ses apôtres. Pour ne citer que saint Jean, voici comment il nous dévoile, dans sa première lettre, à la fois la distinction des 3 personnes en Dieu et leur unité de nature. « Il y en a 3, écrit-il, qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit-Saint. Et ces 3 sont 1. » On ne peut pas exprimer plus clairement l'unité dans la Trinité. Faisons quand même là-dessus un court commentaire, en nous basant sur le catéchisme du Concile de Trente. Traitant du symbole des apôtres, il dit ceci, « Le Père est dans l'unité de la nature divine la première personne et, avec son Fils unique et le Saint-Esprit, il forme un seul Dieu. » Juste une comparaison. 3 flambeaux dont les mèches brûlantes se joignent, ne forment qu'une flamme. Ainsi, les 3 personnes divines ne font qu'un Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes, mais 3 personnes égales. Toujours notre catéchisme. Il n'est pas permis de penser qu'il y ait entre les 3 personnes la moindre inégalité. Lorsque nous disons que le Père est la première personne, il ne faut pas croire que nous entendons supposer dans la Trinité quelque chose de premier ou de dernier, de plus grand et de plus petit, puisque la religion chrétienne proclame dans les 3 personnes la même éternité, la même gloire, la même majesté. Mais comme le Père est le principe sans principe, nous affirmons qu'il est la première personne. Sans doute, quand on dit « première personne », on a tout de suite l'impression que le Père a existé d'abord, puis qu'il y a eu le Fils, puis le Saint-Esprit. Or, il n'y a jamais eu un seul moment où le Père aurait existé sans le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous les 3 éternels. Un seul Dieu en 3 personnes, personne égale, mais aussi personne distincte. Toujours le catéchisme du Concile de Trente. Le nom du Père nous indique qu'il faut admettre dans l'essence divine non une seule personne, mais plusieurs réellement distinctes. Il y a en effet trois personnes dans une seule et même divinité. Celle du Père, qui n'est engendrée d'aucune autre, celle du Fils, qui est engendrée du Père avant tous les siècles, celle du Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, de toute éternité. Bien sûr, tout cela reste très mystérieux, peut-être un peu trop intellectuel. Cela parle peu à notre cœur, dirait quelqu'un. Soit, regardons donc le bon Dieu du point de vue de l'amour. Dieu est charité, nous dit saint Jean. Et qu'est-ce que la charité? La charité, nous dit saint Thomas, n'est rien d'autre que le don de soi. La charité se donne, se diffuse. Bien, appliquons cela à la Trinité et nous aurons un précieux éclairage sur ces relations entre les trois personnes. Le Père aime tellement le Fils qu'il se donne à lui. Et il se donne de telle manière que son Fils est son égal. Il ne retient rien pour lui. Il reste ce qu'il est. Il reste toujours Dieu, il reste toujours avec toutes ses perfections. Mais dans son amour infini pour son Fils, il engendre un Fils exactement semblable à lui-même, qui a toutes ses propriétés, avec la même infinité, la même perfection, la même éternité. Parce que l'amour est fait pour se donner. Et le Père se donne donc à travers son Fils. Et le Fils et le Père, se donnant l'un à l'autre, produisent la personne du Saint-Esprit, qui elle aussi est égale au Père et au Fils, n'ayant avec eux qu'une même nature et une même divinité. C'est le don d'eux-mêmes qui constitue la troisième personne, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi saint Bernard appelle le Saint-Esprit le baiser de la bouche de Dieu, un lien qui vient de Dieu, qui unit les deux, lien vital et vivant. Il est très important de croire en ce grand mystère de la Sainte Trinité, croire pour la voir un jour au ciel. C'est ce qui fera notre joie pendant toute l'éternité. Voir et posséder Dieu un et trine, à jamais. Cette possession nous est possible dès ici-bas. Nous pouvons déjà sur la terre vivre de la vie même de Dieu, de la vie intime de la Sainte Trinité, la posséder par la grâce. Et pour avoir cette grâce, l'avoir plus sûrement, plus facilement, la même Trinité nous donne une médiatrice, Notre-Dame, comme un canal par qui doit passer toute grâce des trois. Mais l'Immaculée n'est pas un simple intermédiaire pour nous faire participer à la vie des trois personnes divines. Elle a été, en devenant la Mère de Dieu, associée à la Sainte Trinité. On a comparé la Sainte Vierge à l'Arche de Noé. Et comme dans cette arche, il y avait trois étages, trois appartements, pour recevoir trois sortes de créatures, de même Notre-Dame avait une telle amplitude et tant de capacité, quelle était la demeure des trois personnes de la Trinité? Tous les trois s'employaient à perfectionner l'Immaculée pour accomplir son parfait bonheur. Monseigneur Gay disait, « Elle a été créée à part, rachetée à part, sanctifiée à part. Le Père y a mis les mains, le Saint-Esprit y a mis son cœur, le Fils y a mis son sang. » C'est en ce sens que Notre-Dame est nommée le complément de la Trinité, ou un ouvrage accompli par la Trinité. Voyons quels étaient les rapports de la Mère de Dieu avec chacune des personnes de la Trinité. Tout simplement, comment elle complétait la Trinité. Commençons par le Père. Par la grâce sanctifiante, Marie est fille du Père, fille adoptive bien sûr. Mais cette adoption est si pleine, si parfaite, qu'elle imite de près la filiation véritable. Cette grâce était due à Marie, parce qu'elle devait être la mère de Dieu, donc convenablement préparée, ornée pour sa mission. Marie est aussi associée au Père dans la génération du même Fils. Les deux générations, l'éternelle et la temporelle, se terminent à la même personne, celle du Verbe. Dans les deux générations, le Fils est engendré de la substance de celui qui l'engendre, de la substance du Père selon la divinité, de la substance de la mère selon l'humanité. Après le Père, le Fils. Marie est d'abord et avant tout la mère de Dieu, le Fils. Cela suppose déjà la plus grande intimité, surtout au temps de la gestation et de l'enfance. Pendant les mois qui séparent l'Annonciation de la Nativité, Jésus vit littéralement de la vie de sa mère. Le sang qui coule dans ses veines, qui fait battre son cœur, qui apporte l'accroissement à ses petits membres, ce sang est passé par le cœur de sa mère. C'est le sang le plus pur de la Vierge Immaculée. Et après avoir alimenté Jésus, il revient au cœur de Marie, d'où, enrichi de nouvelles substances nourricières, il retourne à Jésus. Dieu pouvait-il faire plus pour honorer une créature? Une créature pouvait-elle plus pour servir son Dieu? Enfin, son autorité maternelle lui confère une certaine domination sur son propre Fils. Le Christ a reçu la nature humaine de qui? De Marie. Il est donc tenu, à l'égard de sa mère, à tous les devoirs auxquels un fils, quel que soit son âge, ne peut se soustraire. Ses devoirs sont la piété filiale, le respect et l'amour. Et pour l'obéissance? En tout ce qui concerne la nourriture et l'entretien de sa vie temporelle, avant sa naissance et durant sa toute petite enfance, le Christ dépendait totalement de sa mère. Cependant, en tout ce qui touche sa divine mission, le Christ a manifesté une pleine indépendance. Il a bien dit à ses parents, lorsqu'il fut retrouvé dans le temple, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Toutefois, notre Seigneur associe sa mère, dans l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. Et il se l'associe encore maintenant au ciel, dans la distribution de toutes les grâces. Marie conserve encore maintenant au ciel un pouvoir sur le cœur de son Fils. Ainsi, il ne peut rien refuser à sa mère. Enfin, Marie est le Saint-Esprit. Notre-Dame est son temple. À cause de la plénitude en elle, de la grâce et des dons. Et ceci d'une façon bien supérieure à tous les autres saints. L'Immaculée est aussi son épouse sans tâche. En effet, le corps du Christ n'a-t-il pas été conçu en elle par la vertu du Saint-Esprit ? Tout cela pour dire que Marie, en raison de sa maternité divine, a contracté une union très étroite et une familiarité très intime avec chacune des personnes divines. D'où un grand intérêt, chers fidèles, pour nous. Si nous voulons vivre vraiment d'une vie intime de Dieu, avec la Sainte Trinité dans nos cœurs, dans nos âmes. « Je ne crois pas, écrivit Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union avec la très sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. » Et bien dépendant de l'Immaculé de plus en plus, tout comme son divin Fils voulait dépendre d'elle pendant sa vie terrestre et veut dépendre d'elle toujours au ciel. Dépendant de l'Immaculé pour notre sanctification, pour notre salut, afin d'arriver à la vision, à la possession éternelle de la très sainte Trinité. Finissons par la prière de saint Jean Eudes. Trinité sainte, ô source de vie, vous qui régnez dans la cité de paix, gloire et beauté du Saint-Cœur de Marie, vivez, régnez dans nos cœurs à jamais. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.